Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Après-demain, vendredi, l'émission se déplace à Poitiers, dans la ville natale de Franck Ferrand, pour une émission en direct et en public. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. C'est en effet un retour aux sources pour moi. Nous serons en direct de la salle des pas perdus du palais de justice de Poitiers, qui est, vous savez, l'ancienne salle des fêtes et de banquets du fastueux duc de Berry, celui des très riches heures. J'espère que les Poitevins seront nombreux à nous y rejoindre. Et comme c'est à l'intérieur du palais de justice, je vous signale simplement qu'il faut vous munir d'une pièce d'identité. Et donc, pendant une heure, ce vendredi, nous allons évoquer les grands moments de l'histoire poitevine, des cours d'amour d'Aliénor d'Aquitaine à l'épisode célèbre de la séquestrée de Poitiers, vous savez.
C'est donc vendredi à 13h. Alors, si vous souhaitez assister à l'émission, soyez là une demi-heure avant, s'il vous plaît. Alors, à Paris en ce moment et jusqu'au 22 juillet, se tient au musée Jacques-Marandré, boulevard Haussmann précisément, une exposition sur le peintre Eugène Boudin, considéré comme l'inventeur de l'impressionnisme. Et cette exposition, vous l'avez visitée, Franck.
Eh oui, nous l'avons visitée avec Lorena de bon matin. Et on peut dire que nous nous en sommes nourris. C'est un bonheur que cette rétrospective. On a trop longtemps considéré Eugène Boudin, en dehors de son musée, à Honfleur, comme un peintre mineur, un petit maître, en vérité, et de l'aveu même de Monet, qui a été son élève, entre autres. Il a joué un rôle essentiel dans l'histoire de l'art et dans l'espèce de révolution de la peinture à la fin du 19e siècle.
Et le Figaro publie un numéro hors-série consacré à cette exposition.
Oui, un hors-série somptueux du Figaro, un hors-série propice aux rêves, voué au plaisir des yeux. Il a pour titre Eugène Boudin, l'inventeur de l'impressionnisme, et son rédacteur en chef, Michel de Gégère, est avec nous pour en parler. Et j'ai également demandé à mon ami Serge Lega, avec lequel nous découvrions Velázquez vendredi dernier, comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne, je lui ai demandé de nous rejoindre pour évoquer le peintre sensible des ciels normands.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Quand je ne suis pas à Paris ni à Poitiers, n'est-ce pas, comme après-demain, c'est sur la côte normande que j'ai l'habitude de me ressourcer, exactement à Villers-sur-Mer, entre Cabourg et Deauville, avec pour horizon ces grèves magnifiques de sable moiré, ocre, chair ou beurre frais, sous un ciel tourmenté, lyrique, dont la splendeur se renouvelle à chaque minute. Il n'y a qu'en Normandie, me semble-t-il, que vous trouverez cette luminosité vibrante et parfois métallique, ces moutonnements pelucheux de nuages déchirés par un vent d'altitude et ces variations de tons qui offrent dans une même matinée toute une succession de camailleux, de bleus glacial, de jaunes improbables, de verts mouillés et de mauves. Ces ciels normands de plomb, rosâtres mouchetés de blanc et d'azur avec ces traces d'émeraude, les fabuleux rivages marins dans leur pureté rustique, personne jamais ne les a captés avec tant de maestria que ce modeste, que cet humble peintre de paysage, que cet artisan de la scène de plage, d'autant plus inspiré qu'il ne prétendait à rien de ce génie, disons-le, qu'a pu être Eugène Boudin. Les rivages de Deauville, de Trouville et des environs, peuplés tantôt de pêcheurs, tantôt de belles dames en robe à crinoline, avec des ciels infinis et des ombres projetées sur un sable incertain, c'est les plages, on en retrouve quelques-unes dans la belle exposition du musée Jacques-Marandré, mais on y trouve aussi bien autre chose, comme si les commissaires avaient tenu à démontrer que Boudin, ce ne sont pas seulement des plages. Vous tombez aussi au détour de chaque petite salle sur les gréements couverts d'oriflammes d'une belle marine, sur une place d'Abbeville en pleine nuit, sur les murs fortifiés de Villefranche en bordure de la Méditerranée, et oui, sur des bigoudaines en coiffe devant un porche breton. Que retient-on de cette véritable cure de couleurs, de cette somme de toiles inspirées, gorgées de vie et, si vous me passez l'expression, j'allais dire gorgées de bonté, car il y a quelque chose comme une humaine bonté dans tous ces tableaux? Eh bien d'abord et surtout, la touche d'un très grand artiste. Cette sûreté inouïe du pinceau qui restitue avec une liberté, on peut dire une fraîcheur qui parfois peut friser l'abstraction, ces impressions de l'instant, ces atmosphères fugaces et définitivement prisonnières de l'art, ces magies liquides ou aériennes, pour reprendre l'expression de Baudelaire. Boudin lui-même disait « J'entrais par la porte que Jonquin avait forcée, j'aurais peut-être eu aussi ma petite part d'influence influence dans le mouvement qui porte la peinture vers l'étude de la grande lumière, du plein air, de la sincérité dans la reproduction des effets du ciel. Oh, trop modeste, le père Eugène. Monet lui rendra justice en affirmant qu'il lui devait tout, et donc derrière Monet, l'impressionnisme. Et Baudelaire, encore lui, de préciser, ça c'est fondamental, je cite Baudelaire, « Ces études, si rapidement et si fidèlement croquées, d'après ce qu'il y a de plus inconstant, de plus insaisissable dans la forme et dans la couleur, d'après des vagues et des nuages, portent toujours, écrits en marge, la date, l'heure et le vent. Ainsi par exemple, 8 octobre, midi, vent de nord-ouest. » Tout le secret d'Eugène Boudin est là, dans une tentative désespérée, mais souvent réussie, de capter... de capturer l'instant dans son infinité présente, où l'on songe à la belle formulation de Proust évoquant un parterre de nymphéas où se reflète le ciel, soit que pendant l'après-midi il fit étinceler sous les nymphéas le kaléidoscope d'un bonheur silencieux, attentif et mobile, ou qu'il s'emplit vers le soir comme certains ports lointains du rose et de la rêverie du couchant, pour changer sans cesse autour des corolles de teintes plus fixes avec ce qu'il y a de plus profond, de plus fugitif, de plus mystérieux, avec ce qu'il y a d'infini dans l'heure, il semblait les avoir fait fleurir en plein ciel. Ce qu'il y a d'infini dans l'heure, voilà le propos de Monsieur Boudin.
Sur Europe 1 de la mer de Claude Debussy. À tout de suite pour la suite au cœur de l'histoire.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Honfleur sur Europe 1 grâce à la berceuse d'Éric Satie.
Et oui, Éric Satie qui est né à Honfleur. Vous savez qu'il y a une maison Satie à Honfleur, mais il n'y a pas vécu en fait. Il y est né, il a passé les premières années de sa vie et il y est né comme notre personnage d'aujourd'hui, comme cet Eugène Boudin dont on peut se féliciter que les Parisiens et j'espère la France entière soient en train de, en ce moment, de redécouvrir le grand talent. Bonjour Michel de Gégère.
Bonjour.
Bonjour Serge Lega. Merci Bonjour. Beaucoup d'être venus tous les deux. Alors, Honfleur... non seulement Honfleur, mais on peut dire des origines très modestes pour Boudin.
Oui, je crois que pour Boudin, ce qui est intéressant, c'est effectivement cette modestie, modestie qu'il gardera d'ailleurs dans son caractère par la suite. Mais c'est vrai que son père est marin, ce qui est assez logique d'ailleurs pour un homme originaire de Honfleur. Sa mère, Marie-Félicité Buffet, est également une femme d'origine modeste. Et on peut penser que Boudin gardera toujours justement ce lien avec ses origines. Ce qui expliquera d'ailleurs que sur les plages dont on a déjà parlé, où on retrouvera des femmes très élégantes, on trouvera aussi des personnages modestes.
Oui.
Les
nés,
les laveuses,
le
les pêcheurs.
Peuple, oui, bien sûr.
C'est même peut-être le monde qu'il aimait le plus par rapport à ces plages très élégantes que l'on connaît.
C'est curieux qu'on ait retenu d'ailleurs l'image de ces dames en crinoline, parce qu'il y a quelques toiles, hein, évidemment, il y en a même un certain nombre, mais ça n'est pas la majorité de ce qu'a pu faire, Boudin. On a peut-être une image un peu déformée. Ce qui est certain, c'est qu'il a été, j'allais dire scotché, le terme n'est pas très élégant, mais en tout cas, ayant découvert, étant né sur cette extraordinaire côte qu'on appelle la côte fleurie, hein, il ne s'en est jamais vraiment détaché. Il y est resté, on le voit constamment passer d'une ville à l'autre, en fait, Michel de Gégère.
Oui, ses origines sont modestes, mais elles sont liées à la mer et à cet estuaire de la Seine, puisque son père est pilote sur un bateau qui fait la liaison entre Honfleur et Le Havre. Ce qui est amusant, parce que finalement, Boudin, lui, toute sa vie, ne cessera d'aller
de faire ça
du
aussi.
Havre à Honfleur.
Il est d'un côté ou de l'autre de l'estuaire.
Et sa mère est femme de chambre sur ce bateau. Donc, vraiment une famille liée à la mer. Et on sait que le jeune Eugène Boudin sert comme mousse à un moment, quand il est tout jeune, sur ce bateau. Donc, il a l'habitude de la mer, l'habitude des ports, et dès son plus jeune âge, eh bien son œil est formé par la contemplation des navires et de la mer.
Alors il a des frères, des sœurs, mais on peut dire, je ne veux pas en rien diminuer l'intérêt d'Eugène Boudin d'un point de vue biographique, mais on ne peut pas dire que sa vie soit extrêmement riche, Serge Legas. Hein, il ne se passe pas grand-chose en dehors de la peinture.
Sa vie est une vie, je pense qu'il y a une chose qui est assez intéressante chez Boudin, c'est une vie aussi faite de rencontres.
Voilà.
On peut vraiment dire que chez Boudin, les rencontres sont essentielles. Il rencontre des artistes et lui, qui objectivement est un peintre autodidacte, il n'a pas cette formation que l'on trouvera chez d'autres peintres, même les peintres modernes. Lui est vraiment un homme qui se fera tout seul. Et ce qui va beaucoup compter, c'est les rencontres qu'il fera, entre autres au Havre, où sa famille s'installe quand il est encore jeune. Et c'est au Havre, entre autres, où il rencontrera différents peintres, des peintres associés à l'école de Barbizon, comme Millet. Il va rencontrer également Constant Troyon, des peintres plus officiels, comme Thomas Couture. Et ce sont vraiment ces artistes qui vont lui donner ce goût de la peinture.
Alors, ce qui est amusant, c'est que les rencontres que vous citez sont les rencontres importantes de sa formation, de l'évolution même de l'art d'Eugène Boudin. Mais quand on parle aujourd'hui de Troyon, ça ne parle plus à grand monde. Et le paradoxe, c'est que les rencontres moins célèbres de l'époque sont celles qui aujourd'hui nous ébahissent encore. Et je pense à Claude Monet, bien entendu.
Bien sûr. Et on peut dire aussi les rencontres qui sont les rencontres, par exemple, de Gustave Courbet, de Baudelaire, dont Franck, vous avez parlé tout à l'heure. Rencontre très, très importante. Et puis, évidemment, la rencontre qui est celle de Monet, puisqu'on a tout de suite ce lien qui se crée entre Boudin et Monet, et bien sûr l'aventure de l'impressionnisme qui se met en place par la dette que Monet a toujours revendiquée et reconnue par rapport à Boudin.
Alors, puisque Michel de Gégère, rédacteur en chef de ce très beau hors-série du Figaro sur Eugène Boudin, est avec nous dans ce studio, je vous propose de faire avec lui en quelque sorte la visite de l'exposition. On va essayer de mettre en évidence un certain nombre des œuvres phares de cette très belle rétrospective. C'est au musée, ça il faut bien le préciser, hein, dans cet hôtel particulier fabuleux du boulevard Haussmann, au musée Jacques-Marandré, dans le 8e arrondissement de Paris.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Et jusqu'à 14h sur Europe 1, nous nous intéressons à Eugène Boudin, peintre de la côte normande.
Et oui, et qui fait l'objet donc de cette exposition au musée Jacques-Marandré et de ce hors-série du Figaro par la même occasion. Alors, il suffit tout simplement de prendre l'affiche de l'exposition et la couverture du hors-série du Figaro et on a, j'ai envie de dire, deux des toiles majeures présentées dans cette exposition, Michel de Gégère.
Oui, deux tableaux effectivement très, très importants. Donc, celle qui fait la couverture de notre hors-série qui s'appelle La plage aux environs de Trouville et l'autre, l'inauguration du casino de Deauville. Il y a un contexte historique qu'il faut préciser. On est dans l'invention des loisirs, au commencement de cette période.
Ce qu'Alain Corbin a appelé l'invention du rivage, hein, même.
Voilà. Et en fait, c'est lié d'une part à deux phénomènes. D'abord, l'invention des bains de mer.
Mais oui.
Par un paradoxe, au moment où Boudin naît, l'été 1824, c'est aussi le moment où la duchesse de Berry
fait ses premiers bains de mer.
La mode des bains de mer qui va se développer. Et ensuite, dans les années qui vont suivre, c'est le développement du chemin de fer. Et en 1862, il y a l'ouverture de la ligne Paris-Honfleur. Et donc,
il faut dire que le demi-frère de Napoléon III, qui est en même temps le ministre d'État, hein, ce qu'on appellerait nous ministre de l'Intérieur aujourd'hui, mais avec des pouvoirs très renforcés, est le fondateur de cette nouvelle station, celle de Deauville.
Hein. Donc, voilà. Et donc, il va être aussi à l'origine de la construction du casino de Deauville. Mais en 1862, on est dans un moment où Boudin n'a toujours pas beaucoup de succès. On a une lettre de lui de janvier 1862 où il dit qu'il est fatigué de manger de la vache enragée, qu'il n'a pas de succès, qu'il est obligé de peindre des toiles pour plaire à un public qui n'y comprend rien. Et en 1862, il va avoir devant le spectacle de cette gentry parisienne sur la plage, eh bien un flash qui va être d'une très très grande fécondité artistique, puisqu'il va avoir l'idée pour la première fois de peindre eh bien ses estivants sur la plage. Alors artistiquement, c'est très intéressant parce que Boudin a toujours refusé de modifier les couleurs de la nature. Il a toujours critiqué une certaine tendance d'un certain nombre de romantiques à exagérer la nature, à créer des tempêtes artificielles, à forcer les couleurs. Et donc lui est un adepte du gris. Et en fait, l'arrivée de ces estivants eh bien, fait surgir la couleur dans les toiles de
mettre un peu de rouge
carmin,
de bleu. Et
permet des effets de contraste tout à fait saisissants. Et donc, il a l'idée de peindre cette plage avec ses estivants. L'année suivante, ou deux ans plus tard, il y a l'inauguration du casino de Deauville. Il a l'idée de peindre l'inauguration du casino de Deauville. Alors là, il y a un petit peu une idée marchande, si l'on peut dire, derrière, puisque, comme vous le disiez, le duc de Morny est derrière cette inauguration. Il se dit qu'il va un petit peu faire sa cour, qu'il va peindre les élégantes de l'époque, et que peut-être peut-être ce tableau va plaire. Et puis, l'année suivante, ces deux toiles sont exposées au salon et elles n'ont aucun succès. Ouais, personne ne les remarque. Alors, il y a une explication à ça, c'est que la manière de Boudin est déjà impressionniste. Donc, les gens qui sont représentés ne se reconnaissent pas. Ils n'attendent pas ce genre de portrait impressionniste, mais un portrait beaucoup plus précis, beaucoup plus léché, etc. Et donc, personne ne regarde ces toiles. Et Boudin, après le salon, va les rouler dans un placard. Et on ne retrouvera ces deux toiles qu'après sa mort. Elles seront découvertes lors de la première exposition posthume qui sera organisée, notamment par Claude Monet, quelques temps après la mort de Boudin. Donc ces deux toiles
étonnant
qui nous paraissent
des œuvres,
vraiment le manifeste de l'art de Boudin et presque le sommet de l'art de Boudin et qui sont effectivement le clou de cette magnifique exposition du musée Jacques Marandré, eh bien ont été méconnues à l'époque.
Elles ont été mises de côté par le peintre lui-même. Alors vous dites qu'il y a une manière déjà impressionniste dans ces toiles. Elle ne fait pour le moment que pointer le bout du nez, hein, si je puis dire, Serge Legas, puisque ça va aller bien, bien plus loin par la suite. On va avoir, on a dans l'exposition d'ailleurs des toiles qui sont à la limite de la abstraction, hein, quelques touches de pinceau comme ça, quelques touches de couleur dont on peut presque se demander si elles sont encore figuratives.
Et c'est ce qui est extraordinaire chez Boudin, c'est cette quête de la lumière fugitive. Qu'il est le premier à chercher vraiment l'instant, parce que si on disait que Boudin est le premier peintre du plein air, ce serait une erreur. Il y a déjà eu des peintres du plein air, la démarche est déjà là, mais Boudin, lui, cherche l'instantanéité. C'est vraiment là où il annonce l'impressionnisme et la technique.
Le coup de soleil très particulier,
absolument,
le coup de vent qui va bouger le nuage.
Les détails qui deviennent infimes et qui donnent ce sentiment vibratile de la lumière. On a l'impression de toutes ces vibrations lumineuses qui sont là. Et c'est peut-être ce que Michel de Jaeger disait très bien, l'échec des tableaux liés à Deauville, puisqu'au fond, ces élégantes qui sont là aimeraient qu'on les reconnaisse. Et
elles
ne deviennent que des formes, et puis elles ne sont que des silhouettes. Et évidemment, ces dames très élégantes, Madame de Galifet, Madame de Portalès, la princesse de Metternich, voudraient être reconnues. Et en fait, elles sont des éléments d'un paysage mondain, mais elles ne sont absolument pas identifiables.
Il y aurait d'ailleurs, on avait remarqué ça avec Lorena en visitant l'exposition l'autre jour, il y a sur ces toiles précises souvent des chaises vides dont il faudrait chercher ce qu'elles veulent dire. Et alors j'ai remarqué qu'il y en a une même qui est au cœur de la composition et sur laquelle sont axées l'essentiel des lignes de fuite, comme si, alors je ne sais pas s'il y a une volonté chez le peintre ou si ça s'est trouvé comme ça. Mais...
Je crois que la question des chaises reste à poser, qui est très intéressante, c'est ce que vous soulevez, Franck, c'est cette idée de peinture composée, parce que c'est là où il ne faudrait pas tomber dans une erreur, qui serait l'idée qu'au fond Boudin travaille simplement sur une spontanéité totale, sans aucune préparation, et c'est là où on voit qu'il y a encore chez lui un aspect plus traditionnel, c'est que tout ça est très travaillé, il y a une maîtrise de son métier, il y a vraiment chez lui l'importance du dessin, l'importance des techniques qui sont là, et cette liberté viendra progressivement, mais tout ça est quand même très maîtrisé.
Alors on va parler évidemment de tout ce qu'il peut y avoir dans l'exposition, et notamment de cette toile qui pendant très longtemps a été attribuée par les spécialistes à Monet, avant qu'on finisse par admettre qu'elle était bel et bien de Boudin. Elle est aujourd'hui exposée sous le nom de Boudin, même si elle porte très distinct et très visible le cachet qui a été apposé après la mort de Monet sur un certain nombre d'étoiles qu'il n'avait pas eu le temps de signer. Alors, on va venir, si vous voulez, dans un instant sur cette rencontre essentielle. Essentielle peut-être davantage pour Monet que pour Boudin du reste, car il ne faut pas inverser l'ordre de l'influence. Ce qu'il faudrait peut-être dire, Michel de Jaeger, et on va entrer ensuite dans tout le détail, c'est que cette exposition est loin de ne présenter que des rivages et des plages normandes. Hein. On se rend compte de l'infinie variété de la palette de Boudin.
Déjà, jusqu'en 1862, Boudin ne peint pas ce type de plage. C'est d'abord un peintre de marine. On a énormément de marines de Boudin. Deuxièmement, vous disiez qu'il est d'origine modeste. C'est vrai qu'il a une sympathie immédiate pour les gens modestes, curieusement, contrairement à son image, et que l'on a énormément de toiles qui représentent des pêcheurs, des ramasseurs de coquillages. Il a fait beaucoup de voyages en Bretagne où il a représenté des bretonnes en procession autour des églises, etc. Il y a toute une peinture de la modestie par Boudin. Et puis Boudin a voyagé, il n'aimait pas beaucoup ça, mais il a voyagé, il a peint le port de Bordeaux. Il y a une toile extraordinaire qui est vraiment de la valeur d'un Monet, qui représente le port de Bordeaux avec ses docks, avec ses navires de commerce, et qui donc est très très différent de l'image qu'on peut avoir de Boudin.
Cette image, elle a été à mon avis définitivement fixée sur un plan littéraire par Marcel Proust. Je vais essayer de vous le démontrer dans un instant.
Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Franck qui nous propose maintenant sur Europe 1 une lecture de l'ombre des jeunes filles en fleurs.
Et oui, vous savez, quand on aime cette Normandie, et notamment, alors là on est au sud de l'estuaire, hein, entre le vieux port extraordinaire d'Honfleur, la ville aux ruelles tortueuses de Trouville, les planches de Deauville bien sûr, et puis ce magnifique rivage à falaise, hein, qui passe par Villers jusqu'à, bien sûr, jusqu'aux villas magnifiques d'Oulgat, et au-delà, la digue si célèbre de Cabourg que Proust a transformée en Balbec. On ne peut que se référer à Proust, bien sûr, et notamment au deuxième tome de L'ombre des jeunes filles en fleurs, qui, dans cette œuvre, dans La recherche du temps perdu, est littéralement consacré à saisir, là encore, la luminosité et l'atmosphère si particulière de cette côte. Eh bien, dans cet ouvrage, on trouve une description des peintures d'un certain peintre plus ou moins pré-impressionniste, qui est Elstir, c'est le nom que lui donne Proust. Or, la plupart des commentateurs ont identifié la figure d'Elstir à celle de Monet, en disant qu'il y avait dans le tempérament du peintre Elstir sans doute quelque chose de Manet. Et moi, il me semble qu'il y a aussi pas mal de Boudin, et en tout cas dans l'art d'Elstir, il y a pas mal de Boudin. Vous allez voir, je cite Proust. Parfois à ma fenêtre, dans l'hôtel de Balbec, il m'était arrivé, grâce à un effet de soleil, de prendre une partie plus sombre de la mer pour une côte éloignée, ou de regarder avec joie une zone bleue et fluide sans savoir si elle appartenait à la mer ou bien au ciel. Bien vite, mon intelligence rétablissait entre les éléments la séparation que mon impression avait abolie. Mais les rares moments où l'on voit la nature telle qu'elle est poétiquement, c'était de cela qu'était faite l'œuvre d'Elstir. Il ne se trompe quand même pas de nom. Une de ses métaphores les plus fréquentes dans les marines qu'il avait près de lui en ce moment était justement celle qui, comparant la terre à la mer, supprimait entre elles toute démarcation. C'était cette comparaison, tacitement et inlassablement répétée dans une même toile, qui y introduisait cette multiforme et puissante unité, cause parfois non clairement perçue par eux de l'enthousiasme qu'excitait chez certains amateurs la peinture d'Elstir. C'est par exemple à une métaphore de ce genre, dans un tableau représentant le port de Carquetuit, tableau qu'il avait terminé depuis peu de jours et que je regardais longuement, c'est à une métaphore de ce genre qu'Elstir avait préparé l'esprit du spectateur en employant pour la petite ville que des termes marins et que des termes urbains pour la mer. Soit que les maisons cachassent une partie du port, un bassin de calfatage, ou peut-être la mer même s'enfonçant en golfe dans les terres, ainsi que cela arrivait constamment dans ce pays de Balbec. De l'autre côté de la pointe avancée où était construite la ville, les toits étaient dépassés, comme ils l'eussent été par des cheminées ou par des clochers, par des mâts, lesquels avaient l'air de faire des vaisseaux auxquels ils appartenaient, quelque chose de citadin, de construit sur terre, impression qu'augmentaient d'autres bateaux demeurés le long de la jetée, mais en rang si pressé que les hommes y causaient d'un bâtiment à l'autre sans qu'on pût distinguer leur séparation et l'interstice de l'eau. Et ainsi, cette flottille de pêche avait moins l'air d'appartenir à la mer que, par exemple, les églises de Crickbeck, qui au loin entouraient d'eau de tous côtés parce qu'on les voyait sans la ville, dans un poudroiement de soleil et de vagues, semblaient, pour elles, sortir des eaux, soufflées en albâtre ou en écume et enfermées dans la ceinture d'un arc-en-ciel versicolore, former un tableau irréel et mystique. Dans le premier plan de la plage, le peintre avait su habituer les yeux à ne pas reconnaître de frontières fixes, de démarcation absolue entre la terre et l'océan. Des hommes qui poussaient des bateaux à la mer couraient aussi bien dans les flots que sur le sable, lequel, mouillé, réfléchissait déjà les coques comme s'il avait été de l'eau. La mer elle-même ne montait pas régulièrement, mais suivait les accidents de la grève que la perspective déchiquetait encore davantage, si bien qu'un navire en pleine mer, à demi caché par les ouvrages avancés de l'arsenal, semblait voguer au milieu de la ville. Des femmes qui ramassaient des crevettes dans les rochers avaient l'air, parce qu'elles étaient entourées d'eau et à cause de la dépression qui, après la barrière circulaire des roches, abaissait la plage, au niveau de la mer, d'être dans une grotte marine surplombée de barques et de vagues, ouvertes et protégées au milieu des flots, écartées miraculeusement.
«
La mère de Claude Debussy sur Europe 1.
Si tout le tableau, nous dit Proust, pour achever cette description des marines qu'Elstir a laissées de côté dans son atelier, si tout le tableau donnait cette impression des ports où la mer entre dans la terre, où la terre est déjà marine et la population amphibie, la force de l'élément marin éclatait partout. Et près des rochers, à l'entrée de la jetée où la mer était agitée, on sentait aux efforts des matelots et à l'obliquité des barques couchées à l'angle aigu devant le calme, la verticalité de l'entrepôt, de l'église, des maisons de la ville, où les uns rentraient, où les autres partaient pour la pêche, qu'ils trottaient rudement sur l'eau, comme un animal fougueux et rapide dont les soubresauts sans leur adresse les eussent jetés à terre. Une bande de promeneurs sortait gaiement en une barque secouée comme une carriole. Un matelot joyeux mais attentif aussi la gouvernait comme avec des guides, menait la voile fougueuse. Chacun se tenait bien à sa place pour ne pas faire trop de poids d'un côté et ne pas verser, et on courait ainsi par les champs ensoleillés, dans les sites ombreux, dégringolant les pentes. C'était une belle matinée malgré l'orage qu'il avait fait.
Avec une émission consacrée aujourd'hui sur Europe 1 au peintre Eugène Boudin.
Eugène Boudin qui fait l'objet d'un numéro spécial, un hors-série du Figaro intitulé tout simplement « Eugène Boudin, l'inventeur de l'impressionnisme ». Alors est-ce que c'est bien lui qui a inventé l'impressionnisme, Serge Lega? On a toujours dit que le personnage d'Elstir, hein, de Proust, c'était Monet, et finalement on se rend compte que c'est au moins autant Boudin.
Boudin est très présent en tout cas, et c'est vrai que la rencontre avec Monet est vraiment essentielle. Alors une chose qui est aussi assez amusante, c'est qu'ils se rencontrent au Havre en 1854, et la rencontre est une rencontre qui se passe plutôt à sens unique à ce moment-là, puisque Boudin est très fasciné par des petites caricatures qu'il voit dans la vitrine d'un encadreur, qui est l'encadreur Gravier, et ces caricatures sont l'œuvre de Monet, et Boudin est assez fasciné par le talent de l'ellipse, du sens de la caricature qu'il voit chez ce jeune inconnu. Boudin, par contre, intéressera assez peu Monet à ce moment-là. Les premières rencontres, Monet est encore un artiste qui se cherche, qui se crée. Il est plutôt encore dans une veine traditionnelle. Et ce qu'il voit de Boudin l'étonne un peu. Et il y aura, par contre, après...
L'étonne un peu, ça c'est votre sens de la litote, Serge. Mais en fait, ça le rebute même
ça
un peu.
Ça le rebute même, franchement. Soyez, allons plus loin, effectivement, j'économisais les termes. Mais c'est vrai qu'il y a une adéquation qui ne fonctionne pas totalement à ce moment-là. Et puis les deux artistes vont vraiment se rencontrer dans le travail sur le plein air. Et là, c'est vrai que Monet, Boudin travaillant ensemble, à ce moment-là, il y aura une véritable osmose, une véritable influence.
Est-ce qu'on peut dire, Michel de Gégère, que finalement Monet doit beaucoup à Boudin?
On peut le dire, c'est lui qui le dit. Il faut insister sur la différence d'âge, c'est-à-dire quand ils se rencontrent, Boudin a 34 ans et Monet en a 17. Donc c'est un tout jeune homme qui fait effectivement des caricatures. Alors c'est vrai que ces caricatures intéressent beaucoup Boudin, mais probablement il a dû sentir d'une certaine façon que c'était pas forcément la voie de Monet, puisqu'il a beaucoup insisté pour l'emmener peindre en plein air. Et ensuite, sur la conversion, c'est vrai que Monet était réticent, sur la conversion de Monet à la peinture de Boudin, on a un témoignage de Monet lui-même, puisque Monet l'a raconté dans une lettre. Il dit « Sur ces instances, j'acceptais d'aller travailler en plein air avec lui, j'achetais une boîte de peinture et nous voilà partis pour Rouel, sans grande conviction de ma part. » Donc il reconnaît qu'il n'est pas très enthousiaste. Boudin installe son chevalet et se met au travail. « Je le regarde avec quelque appréhension. » Et puis tout à coup, ce fut comme un voile qui se déchire, j'avais compris, j'avais saisi ce que pouvait être à la peinture. Alors qu'est-ce que
c'est quand même énorme. Monet, quand Claude Monet dit « j'avais saisi ce que pouvait être la peinture », on peut pas faire de plus bel hommage.
Alors,
ça n'existe pas.
Qu'est-ce que Monet a découvert? Eh bien, il a découvert la peinture de l'instantané, qui dans lequel tout l'impressionnisme est finalement compris. Il a compris que le sujet de la peinture pouvait être de capter un instant, de capter une impression, de capter une lumière et de l'immortaliser sur la toile. Et dans les années qui vont suivre, ils auront une correspondance, mais on a des lettres que Monet signe en disant « votre élève et ami ». Donc voilà la relation qui s'instaure entre eux. Et à la fin de sa vie, alors que Monet est tout à fait glorieux, il est un peintre quand même qui n'est pas académique, mais qui a un succès fou, qui est très reconnu, eh bien il aura cette honnêteté profonde de dire, il écrit à Boudin en 1892, là on est tout à fait à la fin de la vie de Boudin, « je n'ai pas oublié que c'est vous qui, le premier, m'avez appris à voir et à comprendre ». Et ailleurs, il dira « je l'ai dit et je le répète, je dois tout à Boudin ».
Alors, c'est clair.
Je sais pas ce qu'on peut dire de mieux.
Et cette toile dont je parlais, hein, cette toile qui représente donc le marché et la place Sainte-Catherine de Honfleur, se trouvait dans l'atelier de Monet, mais c'était un souvenir qu'il avait conservé de son ami et de son maître, en vérité.
Et c'est aussi ce qui est effectivement intéressant, c'est à quel point on voit qu'il y a des interférences directes entre les deux artistes et puis aussi les rencontres, puisque Monet reconnaît toute la dette qu'il a par rapport à Boudin. Il reconnaît aussi une autre dette qui est le peintre hollandais Johan Bartholdt Jonkin, mm-hmm. qui est aussi très très important, et c'est là aussi où ces rencontres se créent, puisqu'au fond c'est Monet qui présentera aussi Jonkin à Boudin, et on voit vraiment à quel point se met en place cette génération pré-impressionniste. Je dirais que Boudin, Jonkin, c'est vraiment l'étape qui porte sur les fonds baptismaux l'impressionnisme, et la conséquence directe est que d'ailleurs lors de la première exposition impressionniste, celle de 1974, Boudin est présent. C'est la seule exposition à laquelle il participera.
Donc 1874.
74, absolument. C'est la seule où il est là. Et d'ailleurs, Boudin, à ce moment-là, est plutôt un peintre qui n'étonne pas, puisqu'on a la violence des couleurs, la violence de la liberté, Impression soleil levant de Monet,
oui, Monet
le choc que l'on connaît. Boudin, avec ses harmonies de gris, ses tons de gris vert, paraît beaucoup plus subtil.
Trop discret, peut-être.
Mais on est 16 ans après cette première rencontre.
Voilà. Absolument.
C'est les dates qu'il faut avoir en tête.
Et
sur cette réattribution, je pense qu'il faut quand même rendre hommage à ceux qui en sont
bien
les
sûr,
responsables.
Bien sûr, c'est ce que j'allais dire.
Qui sont Laurent Manœuvre, le commissaire de cette magnifique exposition du musée Jacques Marandré, et Marie Bergeret Gourbin, qui est la conservatrice du musée Eugène Boudin à Honfleur, qui ont quand même eu le culot d'aller jusqu'à réattribuer un tableau qui est signé Claude Monet. Alors, il est signé, en fait, c'est un cachet, comme vous le dites, un cachet de l'atelier. On pense qu'à la mort de Monet, eh bien, en fait, ce cachet a été apposé sur des tableaux qui étaient dans son atelier, et donc que Monet avait acquis ce tableau. Et on pense, alors c'est une déduction de Laurent Manœuvre à partir de l'étude de la correspondance, eh bien, Monet avait pris la présidence du comité pour l'organisation de l'exposition rétrospective d'Eugène Boudin après sa mort, et on sait que l'exécuteur testamentaire, à la suite de cette exposition, a remercié un certain nombre d'organisateurs en leur donnant des tableaux de Boudin. Donc on pense que c'est à cette occasion que ce tableau a été donné à Claude Monet, et qu'après sa mort, par erreur, eh bien, l'atelier
il a été réattribué. Oui, voilà, bien sûr.
Mais pour qu'il lui soit attribué, il fallait bien entendu qu'il
y ait une
la
forte
manière soit
ressemblance,
telle que ça ne soit pas invraisemblable.
Et là, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas du tout invraisemblable. Alors, on a beaucoup parlé de Monet, c'est une évidence, mais il y a d'autres grandes rencontres hein, dans la vie de Boudin.
Oui,
la vie
il y a
de Boudin.
Une rencontre essentielle aussi, c'est évidemment Corot, qui aura cette merveilleuse formule, puisque c'est Corot qui appelle Boudin le roi des ciels. Et ça, c'est à mon avis aussi un des aspects qu'on voit très bien dans l'exposition. Bien sûr, il y a les plages, bien sûr, il y a les marines, mais c'est un peintre de ciel absolument
tous
extraordinaire.
C'est plus étonnant. D'ailleurs, pour le Figaro, c'est formidable, parce que ça vous fait des grandes doubles pages magnifiques avec des ciels incroyables.
On n'a même pas besoin de travailler.
Ouais, c'est ça. C'est tout fait. Hein.
Corot rencontre Boudin dans l'atelier de Troyon, car Boudin, mangeant de la vache enragée, eh bien, finit ses fins de mois en réalisant des ciels pour Troyon. Troyon, c'est un peintre qui fait des grandes peintures animalières en composant des paysages avec des vaches.
Avec des vaches, oui, voilà. Comme on faisait en Angleterre à la même époque, d'ailleurs.
Voilà. Et en fait, il confie à Boudin eh bien, l'achèvement ou la composition de ces ciels. Et c'est cela qui amène Corot à dire « mais vous êtes le roi des ciels ».
Ah oui, finalement, ces ciels sont peut-être ce qu'il y a de plus fascinant. On en parlait avec Velázquez l'autre jour. Hein, il y a tout cette fascination des peintres pour les ciels. Alors, on disait un mot de Courbet peut-être aussi,
qui est aussi une rencontre assez étonnante parce que, on l'a dit tout à l'heure, Boudin est un homme assez modeste, est un personnage qui ne se met pas beaucoup en valeur, qui est un personnage assez discret. C'est l'antithèse de Courbet.
Ah oui,
Courbet, c'est véritablement le personnage qui veut toujours s'affirmer. Les caricaturistes de l'époque représentait toujours Courbet avec une tête trois fois plus grande que le corps. C'était vraiment la grosse tête de Courbet était mise en valeur très très tôt et Courbet est très sûr de la place qui est la sienne et du rôle qui est le sien. Et il y aura une très belle rencontre et effectivement Courbet aussi sera très fasciné par ce talent qui est ce talent à venir de Boudin sur justement entre autres la liberté qui s'annonce et qui montre là aussi une évolution. Et on peut penser que si Courbet tardivement se laisse aller à justement s'intéresser au plein air, s'intéresser à des études, il y a aussi le rôle justement de Boudin.
En visitant la belle exposition mise en scène par Laurent Manœuvre, on croise également deux autres personnages. Le Durand Rebelle, d'une part, hein, qui a joué un si grand rôle dans l'avènement de l'art moderne. On laissera peut-être ça pour une autre fois. Mais aussi le grand critique d'art. On a oublié parfois à quel point il a d'abord peut-être été critique d'art. Baudelaire, qui est très présent et dont les jugements sont d'une finesse, d'une justesse extraordinaire. Ils sont reproduits en grand, hein, sur les murs de l'exposition.
Alors, il se rencontre en 1859 avec Courbet. Oui. Boudin et Courbet sont en train de bagnoder sur le quai du Havre, je crois. Et Baudelaire est en séjour dans la région. Il est chez sa mère. Il s'y ennuie un peu. Et on a le récit très précis par un troisième témoin qui s'appelle Chonard et qui est un musicien qui était un des modèles de la vie de Bohème. Et Baudelaire insiste pour les inviter immédiatement à dîner chez sa mère. Ils partent chez la générale Hopi, qui sont très très bien reçus. Ils sont un petit peu gênés parce qu'ils ont des paletots crasseux, ils n'ont pas de gants. On imagine, alors Courbet se penche en deux, paraît-il, de façon un peu ridicule pour donner le bras à la générale Hopi, qui est toute petite, etc. Et puis, enfin, le dîner se passe très bien. On prend le café sous la véranda et sur le coup de 9h, puisqu'on dîne très tôt à l'époque, on dîne à 6h, sous le coup de 9h, cette société se sépare et Baudelaire insiste pour raccompagner la compagnie jusqu'au bateau qui va les ramener au Havre. Et à leur grande surprise, Baudelaire monte sur le bateau et rentre au Havre avec eux, puis finalement prend le train au Havre pour Paris avec eux et leur explique dans le train, ben, le fond de l'affaire, c'est que j'ai horreur de la campagne. On a ce récit. La campagne m'est insupportable, surtout quand il fait beau, dit Baudelaire. Le soleil m'accable. Quand je me baigne, c'est dans une baignoire. J'aime mieux une boîte à musique qu'un rossignol. Et pour moi, l'état parfait des fruits du jardin ne commence que dans le compotier. Le poète totalement allergique à la campagne, le poète du spleen de
qui
Paris.
Qui ne supporte que l'art, finalement.
Qui ne supporte que Paris. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Baudelaire, au salon suivant, va faire une critique très, très fine de l'art de Boudin, mais qui ne portera pas du tout sur le tableau qui est présenté au salon. Il va dégager ce tableau en expliquant que c'est un honnête tableau qu'a fait M. Boudin, mais que ce qui est intéressant, c'est ce que lui, Baudelaire, a vu à Honfleur dans l'atelier de Boudin. Et là, il donne une analyse de l'art de Boudin qui est absolument prodigieuse.
Ah oui, ça, qui est d'une force assez extraordinaire. Décidément, que de grands talents autour hein, d'Eugène Boudin. Tout le monde était conscient, finalement, de son art fabuleux. Et le public, lui, s'est laissé pendant longtemps surprendre.
Le succès vient tardivement.
Il faut dire que le bonhomme lui-même n'était pas très coruscant. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, on y vient dans un instant. On va essayer de voir à quoi ressemblait vraiment Eugène Boudin.
Extrait sur Europe 1 de la mère de Claude Debussy. Nous parlons aujourd'hui d'Eugène Boudin, un peintre qui vous fait vivement réagir.
Oui, oui, en tout cas de façon très agréable. Alban nous dit « Ah, quel vibrant hommage à ma chère Normandie et quel plaisir de redécouvrir ce monsieur Boudin. Je vous écoute attentivement comme d'habitude », nous dit Patricia, « et je me dis quelle chance j'ai d'être né à Honfleur, cité des impressionnistes et de la ferme Saint-Siméon. » Christiane nous fait remarquer très justement que le musée Malraux du Havre, hein, le MUMA, si l'on peut dire, possède la plus importante collection d'œuvres de Boudin réunies dans une institution publique. Donc il faut le souligner. Et puis Bruno Mallet pose une question, il nous demande si Eugène Boudin est bien mort, comme on l'a dit, face à la mer. Alors là, vous ne vous bousculez pas pour répondre.
Ce qu'on sait des circonstances de sa mort, on sait qu'il a eu un malaise en préparant sa palette dans son atelier à Paris, qu'ensuite il est resté un bon moment, non pas alité, mais sur une chaise longue très diminuée. On est en 1898, et puis l'été venant, se sentant mourir, il a demandé à ce qu'on l'amène à Deauville pour mourir à Deauville. Alors, est-ce qu'il est mort en regardant la mer ? L'histoire ne le dit pas, mais on peut effectivement le supposer. Et ensuite, son corps était ramené à Paris pour les obsèques.
Ce qu'il y a d'incroyable dans l'exposition, c'est qu'on voit à quel point, évidemment, pour des raisons de santé, il est allé s'installer pendant tout un moment dans le sud, hein, sur la côte d'Azur. Et on a ces tableaux de, on peut dire, du rivage,
du
Fort d'Antibes, notamment, oui. Et puis la Belleville Franche, etc., peint par Eugène Boudin. Et c'est curieux parce que c'est plus tout à fait le même Boudin. On a l'impression qu'il manque un peu quelque chose de, on va dire, du caractère changeant des ciels de Normandie, peut-être.
Ça n'est plus là, exactement. Il s'adapte à cette lumière qui est la lumière du midi. Et c'est vrai qu'aussi, il y a eu un autre voyage important qui est justement un des derniers. C'est le voyage à Venise qui est très, très important. Et ça aussi, on le voit bien. Et c'est quand même assez touchant quand on sait aussi que Monet, avant de mourir, voudra à tout prix se rendre à Venise. Ça sera son dernier voyage. Toujours ce lien avec la Sérénissime qui est quand même le lien de la peinture, de la lumière et de la couleur.
Alors en sortant de l'exposition, on voit une photographie d'Eugène Boudin. On est un peu surpris. Hein. C'est vraiment un petit bonhomme qui ne paye pas de mine, si je puis dire.
Oui, c'est chaque fois je retrouve le même terme de modestie, mais c'est vrai qu'on le retrouve. Par contre, c'est quelqu'un qui est un homme d'amitié.
On dirait un petit peu cette image qu'on avait avant la Première Guerre mondiale du facteur de village, un peu comme
un
ça.
Peu, hein. Un peu, l'image est un peu là. Ouais. Et l'une de nos auditrices, parler justement de la ferme Saint-Siméon. Alors voilà, un des endroits qui est aussi un endroit important pour Boudin. Boudin considérait même qu'il était peut-être le découvreur de cette ferme Saint-Siméon chez la mère Toutain à Honfleur. Et c'est vrai qu'il avait l'habitude d'y emmener ses amis. Alors là, c'est quelque chose qui est important pour lui. Ses relations, ses amis, ses moments de connivence, de réel contact sont des choses très très importantes pour lui.
Vous me racontiez cette anecdote du riche amateur marseillais qui vient dans l'atelier de Boudin, amené par Volon, hein. c'est assez ouais. Spectaculaire.
Et Volon lui dit surtout ne me casse pas les prix en demandant voilà. Trop peu. Et alors Boudin voit que l'amateur s'arrête devant une toile, il fait un énorme effort sur lui-même, il dit je vais lui demander au moins 350 francs, ce qui est une somme dérisoire pour l'époque. Et Volon lui dit je ne t'amènerai plus jamais personne parce que tu es incorrigible. Quoi.
Ah oui, non, c'est vraiment, il n'était pas fait pour les affaires cet homme-là. Et peut-être d'ailleurs que ce goût qu'il avait pour la nature, pour l'instant, pour la capacité qu'on peut avoir de restituer l'instant présent, aller contre toutes les vertus sociales, si je puis dire, et tout ce qu'il faut pour réussir et pour vendre, notamment pour se vendre. Il savait pas se vendre.
Mais c'est aussi un parallèle qu'on pourrait faire à ce moment-là avec quelqu'un qui a connu le succès, mais qui n'en avait pas besoin, qui est Corot. Corot qui a eu un rôle important, on l'a dit, pour Boudin, et qui est aussi un personnage qui avait le sentiment que l'argent n'était pas une chose essentielle. Et qu'on retrouve à chaque fois comme parallèle.
Il le dit lui-même, il y a une lettre où il dit « Au fond, je ne suis pas gay. » Et c'est peut-être ce qui m'a donné cette capacité de sentir. C'était une très jolie confession.
Et en même temps, il n'y a aucune tristesse.
Aucune
dans
amertume.
Les toiles, hein, on ne sent rien, dans l'art en tout cas de Boudin, on ne sent rien de triste ou de spécialement mélancolique.
Oui, mais à la fin, il a quand même une espèce de lassitude, notamment ces plages, mondaines ont un grand succès, mais il y a un malentendu, les gens les achètent comme des cartes postales, souvenirs de leurs vacances. Et au bout d'un moment, il en est excédé, et on a encore une fois une lettre où il dit « Cette plage de Trouville qui faisait naguère mes délices n'a plus l'air depuis mon retour que d'une affreuse mascarade. Il faut presque du génie pour tirer parti de cette bande de fainéants poseurs. »
Ah oui, on quand même, là il n'en veut plus. Là.
Et il y a à l'exposition du musée Jacques-Marandré une toile qui est très significative parce qu'elle est elle est tardive, elle est de 1896, deux ans avant sa mort. C'est une toile un petit peu testamentaire qui s'appelle Coup de vent à Frascati. Elle représente une tempête et au premier plan, on voit un groupe de cabines de plage. Ces cabines de plage qui étaient tellement emblématiques des plages de Boudin qu'on a tellement vu avec des jolies dames, des mondaines et des mondains. Eh bien, ce groupe de cabines de plage, cette fois, est emporté par la vague, comme si Boudin avait voulu cette fois en finir avec ce thème.
Oui, on sent qu'il n'y a pas
de jolie nouvelle.
Il n'y a pas d'empathie avec les personnages qui sont sur ces plages. Et j'ai retrouvé aussi, puisqu'on parlait de lettres, une phrase que je trouve superbe dans le caractère de Boudin. Boudin écrit en 87, donc grosso modo 10 ans avant de mourir. Il écrit « Je suis un isolé, un rêvasseur qui s'est complu à rester dans son coin et à regarder le ciel. L'avenir fera de moi ce qu'il fait de nous tous. » pousse. J'ai bien peur que ce soit de l'oubli. Mais là, l'exposition montre que justement, non.
Nous le ferons mentir.
Absolument.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que Boudin n'est pas tombé dans l'oubli. Il a peut-être failli à une époque, mais là, on est en train de le redécouvrir. Et l'affluence à cette exposition au musée Jacques Marandré est telle que je pense que ça va être un grand succès. Vous vous en rendez compte avec le numéro hors série,
oui,
Michel
c'est
de Gégère.
C'est un numéro qui marche très bien et je crois que l'exposition est un immense succès mérité, parce que d'abord cette exposition est très belle par le choix qui a été fait par Laurent Manœuvre. Il a privilégié la qualité sur la quantité. C'est un choix d'esthète elle est extrêmement agréable à visiter, et en même temps il y a une adéquation parfaite entre Boudin et le cadre magnifique du musée Jacques Marandré. Donc je pense que c'est vraiment un moment d'exception d'aller passer 2 heures au musée Jacques Marandré. Je crois que vraiment personne ne ressortira de là en pensant qu'il a perdu son temps.
C'est aussi assez joli, parce qu'on se dit qu'au fond Édouard André, qui est passé à côté de Boudin puisqu'il s'intéressait à l'art contemporain au début de sa collection, puis il a vendu
il
sa collection
post-mortem.
D'une certaine façon on le retrouve, puisque sous l'influence de sa femme Nelly Jacquemart, il ne collectionne plus que de l'art ancien, il vend sa collection moderne, et au fond Boudin n'est pas présent, mais il l'est grâce à l'exposition.
Et puis c'est le moment de citer le festival Normandie Impressionniste qui aura lieu à partir du 27 avril pendant tout l'été, hein, jusqu'au 29 septembre, avec des expositions, des spectacles, des récitals et des conférences. Festival Normandie Impressionnisme, le mieux, il y a tellement de choses de prévues que le mieux c'est de se rendre sur internet pour en savoir davantage. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir fait revivre non seulement Boudin mais cette côte normande que nous aimons tant.